Bonjour mes frères et mes sœurs. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en la Bible? Croyez-vous aux promesses divines dans la Bible? Êtes-vous absolument convaincu que ce que Dieu déclare dans la Bible constitue la vérité? Êtes-vous sûr que les promesses que Dieu fait à travers la Bible sont exactement de la vérité pure et simple? Si tel est le cas, pourquoi vos prières ne sont-elles pas toujours exaucées? Car Dieu dit dans la Bible, demandez et vous recevrez. Si tel est le cas, pourquoi tant de gens demandent et ne reçoivent pas? Je répète, pourquoi les promesses divines, qui sont certaines, car Dieu ne ment pas, ne sont pas toujours accomplies pour tout le monde? Et pour vous peut-être, et pour moi peut-être. Pour quelle raison en effet, ces promesses qui sont simples, qui sont réelles, des promesses dont on peut vraiment dépendre, sur lesquelles on peut compter, ne se réalisent pas toujours? Il y a une raison, c'est que la plupart du temps, nous doutons de Dieu. Et pourtant, Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu dit quelque chose, ce quelque chose constitue la vérité. Mais le fait est que nous doutons de sa parole. Ou bien nous ne faisons pas notre part. Voilà. Ces deux conditions constituent les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas toujours compter sur les promesses divines qui sont infaillibles. Si Dieu vous dit une chose dans la Bible, si vous promet quelque chose, vous pouvez être absolument certain que cette chose va se passer, à moins que vous vous laissiez emporter par vos doutes. Et les doutes sont partout, c'est autour de nous. Les doutes, ce sont les exemples des autres qui sont autour de nous, qui doutent, qui ont peur, qui sont malades, qui échouent. Tout ça nous affecte. Voilà pourquoi lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, lorsque nous prions, nous nous laissons impressionner par les doutes des gens qui sont autour de nous et les promesses divines, en quelque sorte, perdent leur valeur en ce qui nous concerne. Mais revenons à ce sujet important. La Bible est pleine de promesses. De Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, vous n'avez que des promesses divines. Dieu vous dit, fais ceci et tu seras récompensé, tu seras béni. À travers la Bible, je répète, Dieu ne fait que promettre. Il nous dit pourquoi nous sommes nés et nous donne la voie à suivre. Il nous dit ce qui va se passer si nous obéissons à ses lois. Et ensuite, il nous dit aussi ce qui peut se passer, ce qui va se passer lorsque nous nous détournons de lui. Donc, je répète, à travers la Bible, c'est toujours ce même enseignement que nous pouvons trouver, c'est-à-dire si nous faisons ce que Dieu nous dit dans la Bible, nous pouvons compter sur ses promesses. Nous devons compter sur ses promesses, car sans les promesses divines, où serions-nous? Tout d'abord, savez-vous pourquoi vous êtes nés? Nous sommes tous nés pour une raison spéciale. Cette raison, c'est que, n'est-ce pas, un jour, nous serons transformés d'être physique que nous sommes en être spirituel que nous serons. Mais cette transformation se fait selon les enseignements bibliques si nous nous soumettons à Dieu et durant cette transformation, nous serons bénis. Nous serons bénis, comme la Bible dit, en ville ou bien chez nous. Nous serons bénis dans nos nations ou autrement dit partout. Vous n'avez qu'à lire Deutéronome, vous verrez. Chapitre 28, par exemple, versets 1 à 14. Mais revenons aux promesses divines. Quelle a été la première promesse que le Christ a faite en venant sur cette terre? Vous n'avez qu'à voir dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 14. Il a fait une promesse et en même temps une condition. Il dit, le royaume de Dieu est accompli. Le royaume est accompli. Le temps est accompli. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Alors, voilà une promesse. De quoi parlons-nous? De quel temps? Le temps que Dieu promet en ce qui concerne le retour du Christ sur cette terre. Et donc, maintenant, nous vivons à l'heure actuelle, à cette époque-là. Et ensuite, dit-il, le royaume de Dieu est proche. Et oui, c'est très proche. nous pouvons voir autour de nous le sérieux des événements, nous savons que ce monde tel qu'il est ne peut pas durer longtemps. Le royaume de Dieu est proche. Et ensuite, voyez-vous, il nous dit encore, il nous dit ce qu'il faut faire. C'est bon de savoir que le temps est proche. C'est bon de savoir que le royaume de Dieu est proche. Mais le fait est que devons-nous faire? Le Christ nous dit, repentez-vous. Autrement dit, détournez-vous de vos mauvaises voies, cessez de transgresser les lois, et ensuite vous serez bénis, dit, repentez-vous, dit-il, et croyez à la bonne nouvelle. Voilà le secret. Et c'est ici aujourd'hui que je mettrai l'accent dans ce sermon. Croyez quoi? Croyez à la bonne nouvelle. Pas à une nouvelle quelconque. Le matin, lorsque vous vous levez, vous n'entendez pas de bonnes nouvelles. Le soir, lorsque vous vous couchez, ou bien vous regardez la télévision, vous n'entendez pas de bonnes nouvelles. Vous ouvrez le journal, la revue, vous n'entendez pas de bonnes nouvelles. Et le Christ dit que le temps est accompli, il dit, croyez à la bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Il s'agit du retour du Christ. Le retour du Christ, qui constitue la bonne nouvelle, va changer tout en ce moment, de tous les hommes vont se réveiller, vont se trouver dans un monde tout à fait différent. C'est cette bonne nouvelle que la Bible nous annonce, c'est cette bonne nouvelle qui doit nous donner l'encouragement dont nous avons besoin pour endurer jusqu'à la fin. Y croyez-vous? Si nous sommes membres de l'Église de Dieu, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous sommes les représentants de Dieu, c'est-à-dire des gens que Dieu se sert afin d'accomplir son but sur cette terre. Car Dieu a choisi un groupe de gens, des membres de l'Église de Dieu, pour proclamer l'Évangile. Car le Christ a dit que l'Évangile de Dieu doit être prêché avant que la fin arrive. Non pas pour convertir le monde, nous ne pouvons pas convertir le monde, ce n'est pas possible. Le monde tel qu'il est a besoin d'un changement total, d'un changement radical. C'est pourquoi le Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, et verset 15, 14, 15, il dit, écoutez, le royaume de Dieu doit être prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. En tant que témoignage, cette prédication. Parlons donc de cette bonne nouvelle. Le matin, lorsque vous vous levez, pouvez-vous penser à cette bonne nouvelle, que le retour du Christ est proche? Le soir, lorsque vous vous couchez, pouvez-vous diriger vos pensées à cette bonne nouvelle, le retour du Christ est proche? Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes malade, pouvez-vous diriger vos pensées à cette bonne nouvelle, une nouvelle joyeuse, le retour du Christ est proche? Car le retour du Christ va résoudre tous vos problèmes, tout, sans exception. Mais entre-temps, direz-vous, qu'est-ce que je fais? Eh bien, entre-temps, avec cette bonne nouvelle, exprimez vos sentiments de reconnaissance et vraiment croyez et agissez en croyant à ces bonnes nouvelles. Car cette bonne nouvelle est la base même, je répète, de notre existence. Je parlais il y a quelques instants d'ambassadeur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, 2 Corinthiens 5, 20, le Christ a dit, vous êtes mes ambassadeurs. Un ambassadeur représente son pays. Quel est notre pays? Notre pays, c'est le royaume de Dieu en puissance. Donc, si nous représentons le royaume de Dieu, nous devons agir en tant que représentants de ce royaume et vraiment être porteurs de bonnes nouvelles. Vous ne pouvez pas porter une bonne nouvelle avec le visage tiré. Vous ne pouvez pas annoncer une bonne nouvelle avec des doutes. Vous ne pouvez pas dire, voilà une nouvelle excellente, fantastique, et puis faire une tête de grimace. Et pourtant, la plupart d'entre nous, même au sein de l'Église, nous ne sommes pas aussi joyeux que nous devrions être. Nous ne sommes pas porteurs de bonnes nouvelles. Certes, nous avons des problèmes. Certes, nous avons de quoi nous souffrir, mettons. Je sais, tout ça existe. Mais outre de cela, au-dessus de tout cela, il y a toujours cette bonne nouvelle dont nous sommes les représentants. À travers la Bible, vous pouvez voir une chose. Dieu est un Dieu de justice, de bonté, d'amour. Voilà une bonne nouvelle. Et Dieu peut tout faire. Quelle nouvelle fantastique! Si Dieu est capable de tout faire, si Dieu est un Dieu d'amour, de justice, si Dieu est un Dieu de joie, et c'est le cas, un Dieu fidèle, comment pourrions-nous jamais douter de Dieu? Et pourtant nous en doutons, pourtant nous souffrons souvent parce que nous doutons de lui. Examinez-vous-même, mes frères et mes sœurs. Lorsque vous êtes malade, où sont vos pensées? Sur les doutes. Lorsque vous souffrez, où sont vos pensées? Encore sur les doutes. Vous regardez autour de vous, vous voyez des malheurs dans le monde, où sont vos pensées? Sur les doutes. Alors, maintenant, reprenez ces mêmes situations et mettez vos pensées sur le Christ. Le Christ a dit qu'il est venu afin que nous soyons dans l'abondance. Voilà. Automatiquement, vous changez votre perspective. Lorsque vous êtes malade, le Christ a dit qu'il guérit toutes les maladies. Donc, changez votre façon de voir les choses, changez votre, je dirais, vos pensées en même temps. Vous verrez la différence que cela fait. Lorsque le Christ a dit qu'il faut que l'Évangile soit prêché dans le monde en tant que témoignage, Matthieu 24, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il a précisé que cet Évangile doit, en quelque sorte, servir de témoignage. Mais l'Évangile signifie la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas proclamer une bonne nouvelle avec une voix de tristesse ou bien le visage tiré comme je viens de le dire. Vos doutes sont vos ennemis. Peut-être les gens autour de vous, de par leur attitude, vous tracassent ou bien vous empêchent d'avoir cette certitude. Ayez les yeux sur le Christ. Lorsque vous vous faites baptiser après votre repentir, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, dès ce moment-là, vous avez en vous le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui vous donne le courage dont vous avez besoin, qui vous donne la joie dont vous avez besoin, qui vous donne la certitude dont vous avez besoin pour lutter contre vos doutes. C'est une lutte. La vie est pleine de luttes. Mais cette lutte, c'est le Christ qui livre. Beaucoup de gens ne veulent pas continuer dans la lutte. Beaucoup de gens ne veulent pas lutter. Et pourtant, il faut lutter, car d'abord, c'est le Christ qui lutte pour nous, et nous luttons pour une cause, pour une bonne cause, et nous luttons parce que nous savons que Dieu est toujours victorieux et que la fin est toujours merveilleuse. Ceci, voyez-vous, c'est le commencement, je dirais, de ce sermon, parce que, je répète, ce sermon aujourd'hui, c'est pour vous encourager. Je veux que vous soyez plein de courage. Quelles que soient les circonstances, quel que soit votre état d'esprit, je veux que vous soyez encouragés. Vous pouvez être malade, vous pouvez être sans famille, vous pouvez être, je dirais, sans travail, sans argent même. Vous pouvez quand même être dans une attitude positive, plein de joie, plein de courage, car vous savez que Dieu est toujours là et que si vous faites votre part, Dieu vous bénit, Dieu vous bénira. Dans Matthieu chapitre 6, le sermon sur la montagne, le Christ a fait une promesse fantastique que souvent, nous oublions. Et pourtant, c'est une promesse qui est là. Nous voyons, nous le savons, nous l'avons vu, nous proclamons même et nous oublions. Le Christ parle ici dans Matthieu 6, il dit « Regardez autour de vous comment la nature même, Dieu en prend soin, comment Dieu prend soin de l'île, des fleurs des champs ou bien des oiseaux. » Et il dit, à combien plus forte raison Dieu ne prendrait-il pas soin de vous ? Voilà une promesse. Ensuite, dans Matthieu toujours, chapitre 6, le Christ nous fait une promesse fantastique. Il dit, écoute, enfin, il vaut mieux que je lise plutôt que je paraphrase. Matthieu chapitre 6, après avoir dit, ne vous inquiétez pas, verset 31, c'est le Christ qui parle. Il dit, ne vous inquiétez pas. C'est un ordre, en quelque sorte, c'est un encouragement en même temps. Ne vous inquiétez pas, dit-il, en disant, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Autrement dit, ce sont des inquiétudes tout à fait normales. Et les Christi, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ? Parce que si vous faites votre part, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Voilà la promesse. Vivez de cette promesse. Pensez à cette promesse. Le matin, lorsque vous vous levez, pensez à cette promesse. Que vous faites votre part, vous faites confiance à Dieu, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de quoi que ce soit. Il dit, car toutes ces choses, dit-il, verset 32, ce sont les païens qui les recherchent. Qu'entend-il par là ? Les païens sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Êtes-vous païens ? J'espère pas. Si vous n'êtes pas païens, dans ce cas-là, faites ce que Dieu vous dit. Ensuite, regardez-moi la promesse. N'oubliez pas, je parle maintenant de promesses divines. Ce sermon est, j'espère, sera plein de promesses pour vous. Des promesses d'encouragement. Le Christ a dit, Matthieu 6, verset 33, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Allez voir ça. Alors, arrêtez un moment. Quelle que soit la condition dans laquelle vous vous trouvez, vous dites, Dieu en est conscient. Dieu le sait. Si Dieu le sait, Dieu qui est capable de tout faire, donc il peut tout changer. Voilà un encouragement qui surpasse tous les encouragements. Si Dieu connaît la situation, et Dieu le connaît, parce que nous savons, du reste, le Christ lui-même répète, il dit, Dieu sait toutes ces choses. Il dit, Dieu connaît les problèmes. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Si Dieu sait, si Dieu est capable, pourquoi perdre courage? Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous direz, comment est-ce que je peux sortir de cette situation? La réponse suit. Le Christ a cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Le royaume de Dieu, c'est le retour du Christ, lorsque le monde sera changé. La justice de Dieu, c'est de mettre en pratique toutes les lois, tous les commandements qui nous sont donnés dans la Bible. Donc vivez de cette façon, vous chercherez le royaume de Dieu. Dans ce cas-là, dit-il, avec certitude, toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin, vous seront données. Quelle promesse. Je répète, si c'est le cas, et c'est le cas, pourquoi ça n'arrive pas en ce qui concerne chacun de nous? Et je répète, à cause de nos doutes, à cause de nos sentiments, je dirais, hostiles, à cause de cette nature charnelle qui veut toujours avoir les choses pour soi, à cause de notre mauvaise conduite, le changement dont nous avons besoin, chacun de nous-mêmes, c'est de changer notre nature humaine, de nous débarrasser de ces doutes, de nous débarrasser de ces craintes, et de croire en Dieu. Vous savez, lorsqu'un père de famille est en train de parler avec un petit enfant, le petit enfant regarde son père et le petit enfant croit son père. Lorsque le père dit quelque chose au petit enfant, d'une façon ou d'une autre, le petit enfant ne doute pas. Il sait que ce que son père dit, ça va se passer. Et donc, de la même façon, lorsque nous parlons à Dieu, soyez sûrs que ce que Dieu dit est vrai. Croyons-y et agissons en conséquence. Ce faisant, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous savez, il y a tellement de choses. Le Christ même, puisque je parle maintenant des promesses, lorsque les disciples du Christ, dans Matthieu chapitre 6, lui ont posé la question, écoute Christ, nous ne savons pas comment prier. Enseigne-nous à prier. Vous savez, mes frères et mes sœurs, c'est une demande que j'ai souvent entendue et que moi-même, parfois, j'ai ce sentiment. Je voudrais savoir comment prier mieux que je ne prie. Beaucoup de gens disent, écoute, mais c'est quoi prier? Comment est-ce qu'on peut prier? Eh bien, le Christ nous donne ici la façon de prier. Et si vous voulez résumer le tout, lorsque vous priez Dieu, avant tout, reconnaissez la puissance de Dieu. Pas de doute. Lorsque vous priez Dieu, avant tout, sachez qu'il vous aime, qu'il est amour. Voilà la base même de la prière. Lorsque vous priez Dieu, ce n'est pas une question de faire des demandes. Reconnaissez sa puissance, sa bonté, sa fidélité et reconnaissez le fait que lui veut vous aider. Et autrement dit, lorsque vous priez Dieu, témoignez-lui vos reconnaissances. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez. Tâchez de dire merci de tout votre cœur à Dieu. Vous serez surpris. Au lieu de compter ce dont vous avez besoin et qui vous manque, comptez vos bénédictions. Et oui, vous serez surpris. Vous savez, moi, j'ai dit par le passé, je ne l'ai pas toujours fait, je regrette. Je voulais avoir chaque jour un petit carnet, mettre dans ce carnet, sur ce carnet, toutes les bénédictions que j'ai eues durant la journée. Mais vous serez surpris si vous faites ça. Des petites choses. Les petites choses que nous considérons comme petites sont des grandes choses. Le fait même que notre cœur bat, que nous pouvons respirer, que nous pouvons manger, que le corps humain fonctionne, c'est une bénédiction. Le fait même que nous pouvons penser, c'est une bénédiction. Le fait même que nous pouvons prier Dieu, c'est une bénédiction. Et l'assurance que nous avons que Dieu existe et qu'il veut que nous soyons dans son royaume un jour, c'est une bénédiction. Donc voyez-vous, ce sont des petites choses, petites, mais voyons. Ce sont des grandes choses. On les considère petites, mais en réalité, ce sont des choses de base. Voilà pourquoi chaque jour, considérez vos bénédictions. La protection que Dieu vous accorde. Lorsque vous voyagez, lorsque vous marchez, lorsque vous descendez les escaliers, en fait, n'importe quand, Dieu est toujours là pour vous protéger. Lorsque vous voyez les choses de cette façon-là, et Dieu vous protège évidemment contre les mauvais esprits, les démons, une fois que vous avez ça, lorsque vous commencez à prier, reconnaissez d'abord les bénédictions que vous avez. C'est comme ça que vous pouvez commencer à prier. Voilà pourquoi le Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque les disciples lui ont dit « Comment enseigne-nous à prier ?» Il a dit « Écoute, commencez d'abord à témoigner à Dieu vos sentiments de reconnaissance. » Vous dites, par exemple, verset 9, Matthieu 6, « Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Vous ne pouvez pas sanctifier le nom de Dieu avec un visage triste et un cœur abattu. Écoutez, comment pouvez-vous dire à Dieu que ton nom soit sanctifié? Vous comptez sur les autres? Non. Ce ne sont pas les autres qui vont sanctifier le nom de Dieu, c'est vous. Chacun de nous doit faire sa part. Pour sanctifier le nom divin, vous devez avoir un cœur tranquille, un cœur joyeux, un cœur plein de reconnaissance. Vous devez sourire, vous devez rire de bon cœur. Vous devez croire en Dieu. Vous devez vous débarrasser des doutes. Ce faisant, vous sanctifiez le nom de Dieu. Eh oui. Autrement dit, vous êtes dans une famille joyeuse, la famille divine, et vous vivez en conséquence. Ensuite, vous dites, toujours dans le même contexte, versets toujours 9 et 10, que ton nom soit sanctifié, ensuite que ton règne vienne. C'est quoi le règne du Christ? Je répète, c'est la bonne nouvelle. Automatiquement, vous commencez une prière avec une attitude positive. Vous verrez la différence. Vous pouvez être malade, vous pouvez souffrir, mais à ce moment-là, lorsque vous priez que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, vos pensées sont ailleurs, sont loin de votre difficulté, loin de vos problèmes. Vous verrez la différence. Et ensuite, vous dites que ta volonté soit faite. Écoutez, mes frères et mes sœurs, combien de fois avez-vous fait cette prière? Et combien de fois, lorsque vous dites que ta volonté soit faite, vous dirigez cette demande sur vous-même? Ce n'est pas les autres, ce n'est pas par leur façon de faire la volonté de Dieu que vous serez heureux, directement parlant. Chacun doit faire sa part. Donc, lorsque vous dites que ta volonté soit faite, vous devez faire votre part. C'est ça qui compte. Lorsque vous dites que ton nom soit sanctifié, vous devez faire votre part. Et c'est ce qui ne se passe pas. Les gens, souvent, récitent cette prière sans vraiment y réfléchir. Autrement dit, dans cette prière, vous devez faire votre part vous-même. Et vous verrez la différence et vous verrez comme vous serez joyeux. Ensuite, le Christ a dit, en terminant cette prière, vous n'avez qu'à lire le reste. Il dit, c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne, la gloire. Mais c'est quoi tout ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que nous devons un jour, nous allons un jour partager avec le Christ. Alors écoutez, durant ce sermon-là, que je fais principalement, je répète, pour vous encourager, pour nous encourager tous, car Dieu est plein d'encouragement. Et bien dans ce sermon-là, je tâcherai de grouper quelques promesses fantastiques divines. Je ne sais pas si je peux les grouper par ordre d'importance ou non, mais je les grouperai dans ce sens que, puisque Dieu connaît nos problèmes, puisque Dieu est au courant de toutes choses, donc je prendrai quelques promesses et je mettrai l'accent sur ces promesses. Alors, l'une des promesses que nous avons vues, c'est que Dieu connaît nos besoins. Vous savez, vous venez de voir, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît, Dieu sait que vous en avez besoin. Donc, automatiquement, quelles que soient les circonstances, dites-vous, Dieu est au courant. Est-ce que je fais ma part? Parce que s'il y a un manque de quelque chose, ce manque est toujours de votre côté. Quand Dieu est fidèle, Dieu ne change pas, Dieu est toujours bon, toujours juste. Et demandez, est-ce que je fais ma part? Est-ce que vous avez pardonné à vos prochains? À votre prochain, comme le Christ a dit. Est-ce que vous avez montré des sentiments de reconnaissance, comme le Christ a dit? Est-ce que vous glorifiez Dieu, comme le Christ a dit? Est-ce que vous sanctifiez son nom, vous, pas les autres autour de vous? Car c'est ça qui compte, vous devez faire votre part. Ce faisant, vous aurez le cœur joyeux. Ce faisant, vous aurez la paix d'esprit. Ce faisant, vous pouvez toujours dire, « Bon, je sais que Dieu est avec moi. » Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que chaque personne en ce moment cherche, mais n'arrive pas à comprendre parce que chaque personne, ou plus ou moins, regarde autour de soi, plutôt que à l'intérieur même, dans notre cœur. Bon, prenons une promesse, par exemple, à part cette promesse que je dis que Dieu connaît. Si vous vous trouvez dans une situation extrêmement difficile et vous vous demandez, Dieu, que fais-tu? Où es-tu? Eh bien, voilà une promesse que Dieu vous fait. Là encore, c'est une promesse magnifique et qui est réelle. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, et que vous dites, mais je n'en peux plus. Dès que vous dites, réfléchissez bien, écoutez bien. Dès que vous dites, je n'en peux plus, eh bien, vous mettez Dieu en doute. Ah, vous savez pourquoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, nous fait une révélation divine et qui nous montre exactement ce que je suis en train de vous dire. Il parle de souffrance, il parle de problèmes, ensuite de ce qui s'est passé à nos ancêtres. Mais ensuite, il dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, écoutez bien, tâchez de vraiment bien comprendre. Aucune, le mot aucune signifie aucune. Il n'y a pas d'exception. Aucune tentation, ou épreuve si vous voulez, ne vous est venue qui n'ait été humaine. Autrement dit, nous passons tous par les mêmes expériences en tant qu'humains. Depuis Adam jusqu'à nos jours, nous sommes toujours, en tant qu'êtres humains, sujets à ces mêmes circonstances. Et Dieu qui est fidèle, voilà encore une autre promesse. Ce petit membre de phrase me réjouit déjà. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, donc je peux toujours compter sur lui. Donc, Dieu fidèle ne permettra pas, à la largue, de voir ça. Si Dieu ne permet pas, alors, quelqu'un peut, qui peut l'en empêcher? On peut voir ce que je suis en train de dire. Si Dieu ne permet pas quelque chose, personne ne peut changer la décision de Dieu. Voilà une assurance qui surpasse tous les doutes, qui vous aide à surmonter tous vos problèmes, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Prenez le temps de réfléchir à soi. Autrement dit, puisque Dieu qui est fidèle, puisque Dieu ne ment pas, chaque fois que vous avez une épreuve, une tentation, Dieu ne permettra pas que cette épreuve soit au-delà de vos forces. Tâchez de bien comprendre, au-delà de vos forces. Autrement dit, vous avez toujours les moyens de pouvoir lutter ou bien de pouvoir sortir victorieux. Si tel est le cas, et c'est le cas, pourquoi ne pas avoir le cœur joyeux? Ensuite, il dit, vous direz-vous, mais comment est-ce qu'il ne permettra pas? Lisez le reste. Mais dit-il, avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Prenez le temps de lire ceci, de réfléchir. Donc, si c'est le cas, et c'est le cas, vous ne pouvez jamais dire que je n'en peux plus. Parce que si vous dites ça, vous faites Dieu menteur. Et c'est vrai. Commencez-vous à comprendre. Voilà pourquoi je parle de doute. Qu'est-ce que Dieu a promis au premier couple? Il a promis, écoutez, vous serez bénis si vous faites ce que je vous dis. Le premier couple n'a pas fait ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a promis à la nation israélite? Et eux, ils n'ont pas fait. Qu'est-ce que Dieu promet aujourd'hui à vous et à moi? Il dit, écoute, fais ce que je te dis, tu seras béni. Et si Dieu vous dit, écoute, et vous écoutez, si vous avez des problèmes, venez à moi et vous trouverez la paix. Matthieu chapitre 7, vous savez, il y a tellement de choses, on ne peut pas vraiment douter de Dieu. La raison pour laquelle nous doutons de Dieu, c'est que nous oublions ses promesses qui sont simples. Elles sont tellement simples que parfois même, il nous est presque impossible de croire parce que c'est trop simple. Ça fait drôle, je sais, mais c'est ça. C'est tellement beau que c'est tellement simple. Regardez voir. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 7. C'est facile à se rappeler, non? Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. C'est pas vrai. Mais si c'est vrai, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, demandez, vous donnerez. Mais il faut savoir comment demander, évidemment. Il dit, cherchez et vous trouverez. C'est une promesse. Si Dieu vous dit, cherchez, vous trouverez, Dieu ne ment pas. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir le cœur joyeux et cette attitude positive? Comme quoi, vous trouverez ce que vous cherchez. Il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Comme je dis, parfois c'est tellement simple, on dit c'est pas vrai. on ne peut pas croire, mais pourtant c'est vrai. Le Christ ne ment pas, Dieu ne ment pas. C'est que, voyez-vous, nous ne frapperons pas, ou bien nous frapperons à une autre porte. Nous demandons d'une autre façon. Nous ne demandons pas selon la volonté de Dieu, comme le Christ nous a montré. Vous savez, il y a tellement de choses dans la Bible que nous ignorons, nous laissons de côté, plutôt que y concentrer et puis vraiment chercher à comprendre le sens des paroles divines. Laissez-moi vous montrer cette même phrase d'une autre façon. À plusieurs reprises dans la Bible, Dieu a fait cette même promesse. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Notez-le. Deutéronome chapitre 4. C'est la même promesse. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, les promesses divines sont fermes. Nous devons toujours faire notre part. Lorsque je lis ces versets, tâchons tous vraiment d'y croire, d'être sûr que Dieu dit la vérité. Dieu ne ment pas. Dans Deutéronome chapitre 4, Dieu nous dit comment il faut aimer Dieu. Ainsi de suite, il nous montre la voie. Ensuite, verset 29, tâchez de bien suivre. Il dit, c'est ici, dit-il, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est une promesse. Si on cherche Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, nous trouverons. Prenez Jérémie chapitre 29, parce que c'est cette même promesse qui se répète. Nous parlons de promesses divines, nous parlons d'être sûr que Dieu fait sa part, et si Dieu fait sa part, nous serons toujours bénis. Jérémie chapitre 29, regardez cette même promesse répétée. Verset 13, il dit, vous m'invoquerez, et dit-il, vous partirez, vous me prierez, et dit-il, vous me chercherez, verset 13, Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous trouverez, et vous me chercherez si vous me cherchez de tout votre cœur. Avez-vous vu dans tout ce que j'ai lu, c'est toujours une condition certaine mais absolue. La plupart du temps, lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, il y a toujours des doutes dans votre esprit. Il n'y a toujours pas de tout votre cœur. Vous ne cherchez pas Dieu de tout votre cœur. Je parlais l'autre jour à une jeune fille. Elle voulait absolument épouser un homme, d'accord, pas de problème. Seulement, ce mariage n'était pas tout à fait conforme aux circonstances. Je lui ai montré qu'il y a un danger. Elle dit, oui, mais j'aime cet homme. Autrement dit, il fallait qu'elle choisisse entre aimer Dieu de tout son cœur ou bien aller et suivre un chemin qui la conduirait dans une mauvaise direction. C'est son choix. La même chose, voyez-vous, lorsque vous avez une décision à prendre, vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Votre cœur ne doit pas être divisé. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais Dieu comprendra, et puis Dieu veut que nous soyons heureux. Oui, il veut que vous soyez heureux, mais à sa façon, et non pas à la façon humaine, qui n'est pas toujours conforme à sa volonté. Donc, quels que soient vos besoins, cherchez Dieu de tout votre cœur. 1 Chronique, chapitre 28. Je prends ceci parce que, voyez-vous, si vous notez, je ne sais pas si ça vaut la peine de noter ces versets, parce que ces versets sont pleins d'encouragement. Ce sont des versets qui prouvent ce que le Christ a dit, que Dieu connaît toutes choses, que Dieu connaît vos besoins. Il dit, frappez, et on vous ouvrira. Alors, 1 Chronique, chapitre 28. C'est toujours la même promesse, mais qui se répète peut-être d'une façon un peu différente. Voilà. J'arriverai à Chroniques chapitre 28, verset 9. En train d'y chercher. Parfois, c'est difficile de tourner les pages de la Bible parce que ça se colle. Alors, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Oui. Je suis en train de voir si je peux prendre la moitié d'une phrase, mais parce que... Commençons par verset 8. 1 Chronique 28, 28. Maintenant, dit-il, nos yeux de tout, aux yeux de tout Israël, dit-il, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence ici de votre Dieu, dit-il, vous, Dieu qui vous entend, observez, prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez, dit-il, ce bon pays que Dieu vous donne. Ensuite, au verset 9, notez-le. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Si, toujours 9, 1 Chronique 28, verset 9, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera aussi. Incroyable. C'est toujours la même chose. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas Dieu qui manque à ses promesses, c'est nous. C'est nous qui ne faisons pas notre part. Alors, quelle est cette promesse dont je vous parle? Dieu connaît vos besoins et il vous promet que, quelles que soient les circonstances, si vous vous adressez à lui, il vous exaucera, à condition que vous le cherchiez de tout votre cœur, pas d'exception, à condition que vous fassiez votre part et que vous vous soumettiez à sa volonté. Voilà pourquoi, comme j'ai dit au commencement de ce sermon, vous savez, mais les choses n'arrivent pas, oui, mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Voilà le pourquoi. Ce n'est pas toujours facile, je suis d'accord avec vous, et pourtant c'est la seule façon d'arriver au but. C'est la seule façon de comprendre que Dieu est toujours fidèle, Dieu est toujours capable de nous aider, de nous donner ce dont nous avons besoin. Alors, une autre promesse. J'ai souvent vu des gens qui disent, « Moi, je ne sais pas pourquoi je suis né. » Des gens du monde, et ils se découragent. Ils disent, « Que faut-il que je fasse? Pourquoi suis-je né ?» Manger, boire, vivre et mourir? Non. C'est ce qui se passe pour la plupart du temps. Mais non, il y a un but, il y a une raison pour laquelle nous sommes nés. Donc, tâchez de chercher à trouver la raison pour laquelle vous êtes nés. Nous qui sommes dans l'Église, nous connaissons, mais connaître une chose, ce n'est pas suffisant. Nous savons que nous sommes nés, je répète, pour être un jour dans le royaume de Dieu en tant que ses enfants. Donc, ça nous savons. Alors, comment vivez-vous maintenant? Autrement dit, vous avez, prenez un exemple. Supposons que vous devez 100 000, 1 million d'euros, ou bien dollars, ça m'est égal, il faut que vous payiez le lendemain. Vous n'avez pas d'argent, mais il y a un créancier qui vous dit, écoute, t'en fais pas. Demain matin, tu auras tes 100 millions d'euros. Je te garantis. Alors, jusqu'au lendemain matin, allez-vous vous croiser les bras puis commencer à pleurer, à vous faire du souci, parce que vous n'avez pas l'argent? Non. La promesse est là, vous pouvez compter sur cette promesse. C'est cette attitude que nous devons avoir envers Dieu. Dieu a promis que nous serons dans son royaume. C'est une garantie absolue. Alors, entre-temps, nous ne pouvons pas nous dire, oh, je n'en peux plus, ou bien c'est trop dur pour moi. Au contraire, avec cette promesse en tête, comme la promesse de l'argent que vous avez en banque, eh bien, vous vivez votre cœur tranquille et toujours en faisant votre part. C'est ce que le Christ a dit, voyez-vous. Prenez Romains chapitre 8. Nous qui connaissons ces vérités, nous devons pouvoir aider les autres qui ne les connaissent pas, encourager les autres et en même temps nous encourager nous-mêmes. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, une chose est certaine. Vous ne pouvez jamais trop donner à Dieu. Tout d'abord, tout ce que vous avez vient de Dieu. De la même façon, vous ne pouvez jamais aider quelqu'un sans que vous soyez vous-même aidé. Je répète, chaque fois que vous aidez quelqu'un, vous recevrez de l'aide en retour. C'est la loi divine. Plus vous faites du bien, plus vous êtes béni. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et pourtant, la plupart du temps, nous cherchons à recevoir plutôt qu'à donner. Nous cherchons à être aimé plutôt qu'à aimer. Vous voyez la différence? Donc, si vous voulez vraiment être béni, ayez les yeux sur le Christ. Sur ses promesses. Regardez ce qu'il dit dans Romains chapitre 8, verset 13. Je répète, vous avez des problèmes, nous avons tous des problèmes. Mais regardez voir ce que le Christ dit. Portez les yeux outre ces problèmes. Ainsi dit-il, frère, nous ne sommes pas, dit-il, redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, dit-il, vous mourrez. Voilà pourquoi beaucoup de gens vivent selon la chair. Mais si vous vivez par l'esprit, dit-il, vous faites mourir les actions du corps. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aïe. Encore une fois, regardez voir. Suis-je conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit que je reçois lorsque je me fais baptiser en tant qu'adulte, après l'immersion totale, après l'imposition des mains. Dès ce moment-là, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Dès ce moment-là, c'est un niveau supérieur. Et c'est ce niveau supérieur me permet justement d'avoir la certitude que non pas seulement ce que Dieu dit, ça va s'accomplir, mais aussi que j'y crois fermement. Et c'est ça qui fait défaut. Souvent, c'est nos doutes, je répète. Et regardez ce que le Christ dit. Vous n'avez pas reçu du tout un esprit de servitude, verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Lorsque vous vous faites baptiser, vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes adopté par Dieu, vous êtes engendré de Dieu. L'Esprit lui-même, dit-il, vous rend témoignage, vous pouvez dire Père à votre Dieu. Or, si nous sommes, dit-il, enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, verset 17, et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrions un petit peu maintenant, afin d'être glorifiés, c'est fantastique. Voyez-vous, voilà pourquoi je ne joue pas avec les mots. Ce n'est pas une question de prétendre non que le mal n'existe pas, au contraire. Regardez autour de vous, vous pouvez voir le mal. Vous pouvez voir les dégâts que Satan fait. Vous pouvez voir les dégâts que nos doutes font. Ou la manière dont l'esprit humain agit. Tout ça, c'est réel. Mais tout ça, voyez-vous, perd sa valeur ou bien sa force lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous nous laissons diriger par Dieu. Voilà pourquoi je répète, et je répéterai, si vous cherchez le royaume de Dieu, comme le Christ l'a dit, et si vous avez les yeux sur ce but ultime, vos souffrances seront minimisées. Le matin, lorsque vous le lèverez, vous ne direz pas, « Oh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Au contraire, vous direz, « Tiens, c'est un autre jour qui me rapproche du royaume de Dieu. » Vous voyez la différence? De façon positive et de façon négative à prier. Si vous avez votre esprit de façon positive, les choses changeront différemment, les choses auront une valeur différente. Là encore, il y a tellement de versets que je voudrais vous citer, mais je vous donne la base. Je vous parle de quelques promesses divines. Et cette promesse divine, c'est que vous serez un jour dans le royaume de Dieu. Comme le Christ l'a dit, cherchez et vous trouverez, et vous aurez le royaume. Je pense que c'est Luc, oui, Luc chapitre 6. C'est la même promesse du Christ, cette fois-ci répétée par Luc. Luc chapitre 6. Luc cite aussi le Christ, ce même sermon sur la montagne dont je parlais il y a quelques instants, et il cite ainsi, voyez, le Christ a dit, verset 27, Luc cite, « Je vous dis, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, voyez-vous, voilà, encore comment arriver au but, c'est pas facile. Nous parlons d'être certains que Dieu nous aime. Aimez vos ennemis. » Faites du bien à ceux qui vous bénissent, qui vous haïssent plutôt. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas facile. Mais nous pouvons le faire si nous avons les yeux sur le Christ, si nous permettons au Christ d'agir à travers nous. Ensuite, dit-il, un peu plus loin, il dit, soyez, et verset 55. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, prêtez sans rien espérer, etc. Verset 36. Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Voilà encore une autre façon d'arriver au but. La plupart du temps, mes frères et mes sœurs, je le répète, j'ai toujours dit dans mes sermons, nous ne sommes pas miséricordieux. Nous voudrions que les gens nous pardonnent, mais nous ne voulons pas pardonner aux autres. Nous voulons que Dieu pardonne nos fautes, mais nous ne nous en repentons pas, puis nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Et pourtant, c'est la base même de la prière du Christ. Il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a une réciprocité. Sans cette réciprocité, la prière que vous faites ne sera pas parfaite. Commencez-vous à comprendre. Là encore, je répète, je donne ces promesses, pas en détail, mais en capsule pour ainsi dire, parce que je veux que vous compreniez. Vous n'avez qu'à chercher dans la Bible beaucoup d'exemples où vous pouvez voir que si vous cherchez le royaume de Dieu, vous serez béni. Bon, parlons d'une autre promesse de Dieu. Lorsque vous priez, êtes-vous certain que Dieu vous entend? C'est une question qui se rapporte un peu aux autres questions que je vous ai posées. Mais comment pouvez-vous être certain que Dieu vous entend? D'abord, rappelez-vous, Dieu est fidèle. Dieu est toujours prêt à vous aider. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous trouverez. Ça, c'est la base. Mais je répète, êtes-vous certain que Dieu vous entend? Contradiction? Non, pas du tout. Je vais seulement vous expliquer un peu plus. Prenez Psaume, chapitre 103. Du reste, le livre des Psaumes, comme vous savez, est plein de promesses divines, est plein de paroles d'encouragement. Et regardez comment David s'exprime en ce qui concerne Dieu. C'est ce sentiment dont nous avons besoin, mes frères et mes sœurs. C'est ainsi que nous devrions tous pouvoir prier avec cette certitude. Lorsque vous lisez les psaumes, lorsque vous lisez la parole de Dieu, tâchez d'avoir les mêmes sentiments dans lesquels ces paroles ont été prononcées ou écrites. Psaume 103. Mon âme, c'est-à-dire mon être, verset 1, tout entier, loue, bénit l'Éternel. Voilà comment commencer une prière. Vous voulez, comment est-ce que vous pouvez bénir l'Éternel, vous qui n'êtes rien? Bénir l'Éternel, c'est de croire en lui, de faire sa volonté, de lui montrer notre reconnaissance, de lui témoigner notre reconnaissance. Ça, c'est ainsi que nous pouvons bénir Dieu. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tout ce qui est en moi, là encore, il n'y a pas moitié-moitié. Ensuite, répète, mon âme bénit l'Éternel. Voyez-vous, ça recommence. Ce n'est pas une répétition vaine, c'est une répétition indispensable. Souvent, nous oublions. Voilà pourquoi la Bible répète et répète et répète la même chose plusieurs fois, afin que nous puissions comprendre. Dieu nous dit, nous répète, afin que ça pénètre dans notre esprit, parfois dur. Mon âme, dit-il, n'oublie, verset 2, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et pourtant, mes frères et mes sœurs, souvent, nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous prenons comme allant de soi les bénédictions divines. Nous n'apprécions pas suffisamment. Nous considérons comme quoi Dieu nous doit quelque chose. Non, Dieu ne nous doit pas quelque chose, sauf la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ce que Dieu nous doit, c'est la mort. Et pourtant, il nous promet la vie éternelle. Voilà pourquoi on peut dire, je bénis l'Éternel de tout mon cœur, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, c'est Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités. Verset 3. Psaume 103. Dieu pardonne toutes les iniquités. C'est quoi les iniquités? Les iniquités sont des péchés. Si un péché n'est pas pardonné, la transgression du péché, c'est la mort. L'amende du péché, c'est la mort. Donc, si un péché que nous commettons n'est pas pardonné, notre but ultime, c'est la mort éternelle, éventuellement. Mais Dieu pardonne toutes nos iniquités, tous les péchés, qui guérit toutes tes maladies. Wow. Vous savez, ça, alors, parfois on dit, c'est pas possible. Mais si. Je sais, lorsque nous sommes malades, nos yeux sont sur le mal, sur les souffrances, sur la maladie. Et nous oublions, comme Dieu dit, nous oublions que Dieu guérit toutes nos maladies, que Dieu pardonne tous nos péchés. Vous, le problème, c'est de notre côté toujours. C'est nous qui ne faisons pas notre part. Si nous pouvions seulement penser ainsi et avoir ce genre de sentiment, vous verrez comment notre vie changerait. Vous, peut-être, qui êtes trop fatigué ou bien malade, je ne sais quoi, qui m'écoutez maintenant, tâchez de diriger vos pensées sur ces vérités sublimes. Vous verrez comment votre vie changera. Non, vous ne serez pas peut-être tout d'un coup, vous n'aurez pas la richesse que vous cherchez, ou bien la jeunesse que vous cherchez, ou bien la guérison même que vous cherchez, mais vous aurez, pour commencer, une paix d'esprit. Vous aurez une attitude positive. Vous serez une source d'inspiration aux autres, et c'est ça qui compte. Soyez un exemple aux autres. Ce faisant, vous serez bénis. Donc, comment savez-vous que Dieu vous entend? Parce que Dieu a promis de vous entendre chaque fois que vous priez. Et vous direz, pourquoi est-ce que je ne serai pas toujours une réponse? Parce que, je répète, vous doutez. Et parfois même parce que vous demandez une chose à la légère. Lorsque vous faites une prière à Dieu, mettez votre cœur dans cette prière. Ne pensez pas à quelque chose d'autre en priant. Beaucoup de gens prient Dieu, vous savez, légèrement ou par leurs paroles et non pas de leur cœur. J'ai rencontré, je me rappelle un jour, quelqu'un qui disait, vous savez, je prie. Dieu, pourtant Dieu n'exauce pas. Je dis, c'est pas vrai. Il dit, comment c'est pas vrai? Il dit, parce que Dieu dit que si nous prions, il nous entend. Alors pourquoi il n'entend pas? Eh bien, il ne nous entend pas parce que nous ne prions pas comme il veut que nous prions. Donc, changez votre façon de prier. Tâchez de voir comment est-ce que vous pouvez prier de façon à ce que Dieu entende. Non pas dire que Dieu n'entende pas, mais c'est votre façon de vous exprimer, de vous approcher de lui. Regardez voir ce que le Christ a dit dans Luc chapitre 9. J'espère que je ne saute pas d'un sujet à l'autre, mais je donne ces exemples alors qu'ils me viennent à l'esprit. Enfin, vous demandez une chose à Dieu et vous mettez votre cœur et vous pensez que Dieu ne vous a pas répondu. Mais comment le savez-vous? Comme j'ai dit dans l'exemple que je vous ai donné, Dieu vous promet de payer vos dettes. Vous avez une grande dette. Et le lendemain, vous devez payer cette dette. Dieu vous a dit, écoute, t'en fais pas. Demain matin, va à la banque. Tu as l'argent en banque, la somme nécessaire. Dès ce moment-là, vous avez cette certitude. C'est avec cette certitude que nous devons toujours marcher. Lorsque vous priez, pensez à votre argent en banque et que la réponse est là et que vous ne doutez pas de cette réponse. Vous verrez comment les choses changeront. Et parfois, non pas seulement vous ne priez pas ainsi, parfois aussi, non pas seulement vous doutez, mais après, vous dites, ben, Dieu n'écoute pas. Non, ne dites jamais, Dieu n'écoute pas. Répétez s'il le faut. Priez, demandez à nouveau s'il le faut. Prenez voir Luc chapitre 18. Le Christ parle ici, donne ici une parabole, verset 1, pour montrer qu'il nous faut toujours prier, ne jamais se relâcher. Voilà le secret. Parfois, nous devons demander à nouveau s'il le faut, non pas parce que Dieu est sourd d'oreille, non. Parce que nous avons besoin d'insister de la bonne façon de changer ce qu'il faut changer en nous. Donc, il dit, jamais se relâcher. Ensuite, il donne l'exemple d'un juge unique qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait pas égard à personne. Et comment ce juge ne pouvait pas donc céder à la demande d'une veuve? Et cette veuve avait besoin de l'aide. Le juge ne la lui accordait pas. Pendant longtemps, il a fait la sourde oreille. Et pourtant, le Christ a dit qu'un jour, parce que cette femme l'importunait, le juge a décidé de lui faire justice. Alors, il prend un exemple tout à fait humain, mettons, et pour nous montrer que Dieu, qui est tellement gentil, tellement bon, tellement fidèle, comment Dieu ne nous bénirait pas, il dit, le Seigneur a dit, entendez ce que le juge unique dit, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Et le Christ dit non. Non, je vous dis. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà à quoi on a besoin. Nous prions, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas de tout notre cœur, nous ne faisons pas notre cœur, et nous n'avons pas assez de foi. Nous demandons sans mettre notre cœur dans notre demande, sans avoir foi en Dieu. Commencez-vous à comprendre. Il y a tellement de choses, de promesses dans la Bible. Peut-être, s'il faut que je conclue ce serment, je voudrais conclure avec une autre promesse qui surpasse toute attente. C'est dans Romains chapitre 8. Une promesse qui est toute simple, mais pourtant une promesse qui nous donne toute la force dont nous avons besoin. Vous savez, mes frères et mes sœurs, nous avons tous notre façon de voir les choses. Certains d'entre nous, selon le pays où nous habitons, nous avons une façon différente de penser. Parfois une langue, la langue dont nous parlons, que nous parlons, et aussi nous permet de nous exprimer de façon différente. Autrement dit, nous avons des sentiments différents, des paroles différentes, une façon différente de nous exprimer. D'accord, mais une chose est certaine. Dieu qui nous a créés, Dieu entend nos prières, quelle que soit la langue dans laquelle nous nous exprimons. Dieu est toujours disposé à venir à notre aide, quel que soit notre besoin, mais nous devons nous faire preuve de cette certitude, de cette joie, de ce cœur joyeux dont je vous parle. Si nous avions la joie dans le cœur, vous verriez que tout autour de nous changerait d'importance d'après notre façon de juger. Regardez le Christ. Le Christ a été persécuté. Le Christ a été blasphémé. Le Christ a été crucifié. Et pourtant, la Bible appelle le Christ un homme de joie. Le Christ a dit, partagez ma joie. Votre joie? Alors que vous souffrez, comment est-ce que vous pouvez être joyeux? Eh bien, parce que les yeux du Christ étaient au-delà de cette souffrance sur cette terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, je répète, a écrit dans Romains chapitre 8 une phrase fantastique. Dans Romains chapitre 8, d'abord, au verset 26-27, Paul nous dit, écoutez, lorsque vous priez, sachez que le Christ intercède pour vous, je paraphrase, et que c'est le Christ qui interprète pour vous. Dieu le Père va écouter le Christ. Le Christ dira, écoute Dieu, voilà ce qu'il veut te dire. Et certainement Dieu entend les demandes du Christ. Si vous êtes proche du Christ, si vous faites sa volonté, vous serez toujours béni. Comme c'est marqué verset 27, l'Esprit du Christ intercède pour vous, intercède en votre faveur. Tâchez de croire à cette vérité. Lorsque je prie, je peux être sûr que le Christ intercède pour moi. Vous savez, ce n'est pas possible. Le Christ, le Créateur suprême des cieux et de la terre, lui qui peut faire toutes choses, intercède pour moi, intercède pour vous. Lorsque vous avez, vous qui n'êtes rien, nous qui sommes rien, nous demandons une chose, mettez-vous dans votre tête, ce n'est pas possible. Le Créateur suprême intercède pour moi auprès de Dieu le Père. Si vous avez cette assurance, vous savez, vous restez bouche bée, pour ainsi dire. Vous ne pouvez pas. C'est incroyable, c'est inconcevable, et pourtant c'est la vérité. Et ensuite, toujours dans ce même verset, après cette assurance que le Christ intercède pour nous, Paul ajoute, verset 28, Romains 8, « Car, dit-il, nous savons, ah là, ça c'est important, nous savons. » Donc, ce n'est pas une question de doute. Dit-il, « Nous savons, dit-il, que toute chose, concourt au bien de ceux. » Voilà, encore une fois, il y a des conditions. Nous ne pouvons pas dire toute chose concourt à notre bien. Il y a certaines personnes qui disent, je sais, j'ai souvent entendu ce verset biblique cité par des gens, « Oh, toute chose concourt au bien, c'est ce que Dieu a dit. » Non, ce n'est pas ça que Dieu a dit. Vous laissez tomber la deuxième partie du verset. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Aimer Dieu, c'est de respecter, c'est faire sa volonté. Donc, si vous aimez Dieu, si vous faites sa volonté, alors là, oui, toute chose concourt à votre bien. Et encore, il y a encore une autre explication. Qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Pour le moment, le monde entier n'est pas appelé au salut. Le salut n'est pas pour cette époque-ci. Donc là encore, lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous voyez les souffrances, non pas parce que Dieu n'est pas juste, mais Dieu a permis à l'humanité d'agir à sa guise. Voilà pourquoi nous souffrons. Dieu a laissé libre le genre humain de se comporter avec cette nature humaine. Mais le moment viendra, lorsque le Christ sera sur cette terre, lors de son retour, que tout ça va changer. Nous n'aurons pas des milliers de religions en ce bas monde. Nous n'aurons pas de gouvernements humains. Nous aurons un gouvernement divin sous le règne du Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la nouvelle que nous proclamons au monde entier. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, quel que soit votre état de santé ou votre état d'esprit, soyez en reconnaissance à Dieu et participez à cette proclamation de l'Évangile pour le bien de l'humanité, car le plus vite nous accomplissons notre tâche, le plus vite viendra le royaume de Dieu. Et alors nous pouvons donc nous en réjouir. La vie est belle. Dieu est bon. Ses promesses sont toujours fidèles. Faisons notre part, ayons ce cœur joyeux, comme l'apôtre Paul a dit, en toute chose, remercions Dieu, soyons lui reconnaissants et montrons-lui par notre exemple, par notre gratitude, que nous sommes vraiment ses disciples parce que nous croyons à sa parole. Croyez Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé ce sermon en disant, croyez-vous en Dieu. croyez-vous à ces promesses? Si tel est le cas, agissez en conséquence.